All you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
C'est à travers ces quelques mots prononcés à l'ONU le 23 septembre 2019 que la jeune militante suédoise Greta Thunberg cherche à sensibiliser l'opinion publique sur la question climatique. En effet, de par des données chiffrées, en employant des mots forts et poignants, mais aussi par son intonation émouvante, elle cherche à démontrer l'urgence climatique tout en dénonçant les dirigeants qui ne pensent qu'aux enjeux économiques. Ces quelques mots témoignent d'une gouvernance climatique mondiale à questionner, puisqu'on verra qu'elle n'est pas toujours efficace quand elle se heurte à des intérêts économiques. Je vais maintenant laisser la place à Héloïse, spécialiste sur la question climatique, qui va vous présenter cette gouvernance climatique mondiale.
Désormais, la mise en place d'une gouvernance climatique mondiale est rendue nécessaire et témoigne elle-même d'une prise de conscience et d'une volonté d'agir contre ce réchauffement climatique. Nous allons donc voir les étapes clés de cette lutte internationale. En effet, les États s'engagent de manière plus concrète dans l'action contre ce réchauffement climatique par une nouvelle forme de gouvernance avec les COP. Les COP sont des conférences des parties sur le climat, qui ont lieu tous les ans depuis 1995 et qui représentent la quasi-totalité des pays. On distingue alors deux COP majeures. En premier lieu, la COP 3 à Kyoto en 1997 au Japon, où pour la première fois, il y a un accord multilatéral qui est mis en place visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Par la suite, on se rend compte que ce protocole n'est pas vraiment contraignant. Ainsi, la COP 21 en 2015 à Paris permet alors enfin d'aboutir à un accord bien plus contraignant, les accords de Paris. Ces accords fixent un objectif global pour tous les pays, une limitation du réchauffement climatique mondial entre 1,5 degré et 2 degrés d'ici 2100. Ainsi, nous pouvons constater l'existence d'une gouvernance climatique mondiale qui prend de plus en plus de place. Cependant, cette gouvernance climatique est lente, car depuis la COP 21, aucune COP n'est allée plus loin. Ceci s'explique de par diverses raisons qui rendent difficile sa mise en place. Je vais alors laisser la parole à Lily, spécialiste dans la section Relations internationales et climat, qui se penchera sur quelques-unes de ces raisons.
En effet, elle fait face à des freins qui rendent difficile sa mise en place. Nous allons voir une prise de position aux plus hautes sphères de l'État qui freine en même temps la prise de décision à l'échelle internationale, mais aussi la prise de conscience des sociétés civiles. C'est bel et bien le climato-scepticisme. Qu'est-ce que le climato-scepticisme ? Ce sont ceux qui croient à la théorie du complot suivant. Le réchauffement climatique n'existe pas vraiment, ou alors pas comme on veut nous le faire croire. Selon eux, ce sont des causes naturelles et non anthropiques causées par l'homme. Ils contredisent ou ne croient pas au consensus scientifique. The climate change science
is far from settled. Dans cet extrait, Tony Abbott, premier ministre australien de 2013 à 2015, remet en cause les conclusions scientifiques. Durant 2 ans, il a gagné en impopularité au sein de son pays par sa position climato-sceptique. En effet, lors des élections 2013, il promettait d'abroger la taxe carbone mise en place par ses prédécesseurs. De plus, il se déclare favorable à l'industrie du pétrole en soutenant le projet Carmichael dans l'exploitation toujours plus grande d'une mine de charbon. Comme le fait remarquer Daniel Spencer, membre de la coalition de la jeunesse australienne pour le climat, Tony et son gouvernement ont ramené l'Australie en arrière. Un autre acteur climato-sceptique, Jair Bolsonaro, président de la République du Brésil de 2019 à 2022. En effet, ce climato-sceptique a toujours encouragé la déforestation en défendant l'exploitation de la forêt. En seulement 1 an, la déforestation a augmenté de 50%. De plus, on ressent un désengagement de la part du Brésil sur la question environnementale. Premièrement, il aurait menacé plusieurs fois de quitter les accords de Paris. Mais surtout, lors de la conférence de la protection de l'Amazonie à l'ONU en 2019, des programmes d'aide ont été annoncés avec le soutien financier de plusieurs pays dans l'objectif d'obtenir 500 millions de dollars pour la protection de l'Amazonie. Mais bien évidemment, le Brésil a boycotté la réunion, il ne s'y est pas rendu, alors que le pays détient 2/3 de la forêt amazonienne, ce qui a une portée symbolique énorme. D'ailleurs, Emmanuel Macron en a profité pour ironiser à propos de son absence.
On va se parler franchement, quels sont nos risques ? Il y en a un premier, l'éléphant dans la pièce, ou plutôt celui qui n'y est pas, le Brésil.
Les regards se tournent alors naturellement vers les autres méchants tout trouvés de la grande bataille du climat, les multinationales. Ces bad boys du climat, d'après une étude scientifique relayée par le quotidien britannique The Guardian, seraient responsables de 63% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde entre 1751 et 2010, soit environ 914 milliards de tonnes de CO2. Au premier rang, nous retrouvons les grandes majors pétrolières telles que Chevron ou encore Shell. Ces chiffres donnent alors la mesure de l'enjeu qui sera de respecter les accords de Paris, puisque cela impliquerait pour ces entreprises de s'engager sur une trajectoire de réduction drastique de leurs émissions de gaz à effet de serre, ce qui obligerait la plupart à mettre la clé sous la porte, qui est une perspective dont les entreprises ne souhaitent pas entendre parler. Aujourd'hui, les majors pétrolières ou encore gazières continuent à investir massivement pour développer de nouveaux gisements de pétrole ou de gaz, souvent dans des conditions de plus en plus extrêmes, avec par exemple de l'offshore profond en Arctique, ou de manière de plus en plus polluante. Aucune d'entre elles n'a même commencé à engager une réduction significative de ses émissions. Ainsi, les multinationales font passer leurs objectifs économiques en premier et continuent de mener une production intensive des ressources pour la plupart.
Le capitalisme a fait son choix, plutôt ça que de perdre son règne.
Tel que le dit Marguerite Duras dans cette citation, polluer rapporte gros et tant pis pour l'incendie inarrêtable.
Finalement, nous avons vu qu'on ne peut qu'acter l'existence d'une gouvernance climatique mondiale qui prend de plus en plus d'importance, mais aussi que son efficacité, du fait de la prise de position climato-sceptique, rend difficile sa mise en place. L'Anthropocène est donc un événement non subi, mais politique, car choisi et consenti au nom de certaines priorités économiques.